19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, on est en direct, quel plaisir de vous retrouver chers amis auditeurs. C'est la première de l'année, oui la première de l'année c'est la reprise. La reprise et je vous souhaite, vous savez, au nom de toute l'équipe et au nom de tout le monde, hein, évidemment, chacun d'entre nous ici même dans les informés, eh bien une très belle et heureuse année, surtout une santé évidemment, parce que la santé c'est essentiel. Et puis le reste évidemment suivra, voilà, c'est ce que je vous souhaite moi en tous les cas. Et c'est parti pour cette nouvelle année. Au sommaire de cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que d'abord, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie infiniment. L'antenne reste ouverte durant une heure et vous êtes prioritaire. Faut-il vous accueille au 01 53 48 3000. Il est là pour vous, évidemment, pour vous accueillir et prendre évidemment à la fois vos doléances, à la fois vos requêtes, mais aussi surtout livrer votre point de vue. Alors au sommaire de cette émission, nous reviendrons quand même un peu sur les vœux d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui continue de faire parler parce qu'ils ont été extrêmement commentés. Et puis cette rumeur concernant, vous savez, Elisabeth Borne qui est évincée, grande point d'interrogation, et puis les rumeurs concernant, vous savez, cette insistance de remaniement du gouvernement, de l'exécutif. Nous reviendrons sur ce sujet puisque paraît-il que cela peut évidemment se produire dans les jours, voire les semaines à venir. On reviendra aussi sur ce cercle vicieux, celui évidemment de l'Europe, qui demande aux capitales d'Afrique du Nord d'être le gardien de leurs frontières, ou des frontières. Oui, mais bon, quel enjeu, évidemment, comment et avec qui? Parce que les partenariats sont un peu compliqués entre l'Europe aujourd'hui et l'Afrique. Nous reviendrons sur ce sujet. Jordan Bardella, je vous l'apprends pas, le seul politique à figurer dans le top 30, le top 50, vous savez, de ses personnalités préférées des Français. Eh bien, nous reviendrons. C'est intriguant et à la fois, vous savez quoi, ça interpelle. Pourquoi Jordan Bardella? Eh bien, le seul, hein, bien sûr dans l'histoire quand même, hein, le seul, ni Mitterrand, ni Jacques Chirac, Sarkozy peut-être un peu, si mon souvenir, peut-être Sarkozy était dans le top 40, il y avait un moment, Olivier Besancenot, mais lui, il tape le record des personnalités, il est carrément dans le top 30. Nous reviendrons évidemment sur cette personnalité politique aujourd'hui, qui, dit-on, pourrait se retrouver un jour président de la République. Eh bien, nous en parlerons dans les informés. Voilà, avec des débatteurs qui reprennent le micro et qui s'emparent du micro, comme toujours, avec passion, évidemment, et avec un regard, avec autant de décryptage et un regard, évidemment, parfois satirique. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, bien sûr, en 2024, en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec la première, avec un invité qu'on accueille justement puisqu'on va parler d'un événement, on parlait de la nouvelle année et cette nouvelle année eh bien s'inscrit dans le cadre aussi, y compris tout simplement de la langue berbère. Cette langue berbère, vous savez, c'est aussi le nouvel an berbère, Amazir. Nous en parlons avec Brahim Aitatman. Bonjour Brahim Aitatman.
Bonjour Adil.
Bonjour, merci.
Bonjour à tous les auditeurs.
Bonne année à la fois pour nos nouvelles en berbère, bonne année tout court, puisque évidemment nous la vivons encore tout le mois de janvier. Voilà, bonne année mon cher Brahim.
Bonne année à vous et bonne année à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Merci en tout cas d'être notre invité pour cette première, parce que nous allons parler du nouvel an à Mazir, justement. Et j'ai envie de vous, avant de parler de votre événement qui se déroule le samedi 13 janvier, c'est bientôt d'ailleurs, ce nouvel an à Mazir, avec une série d'artistes, avec des politiques qui viendront évidemment fêter tout ça hein, pour ce nouvel an. Rappelez-moi, c'est 2974 hein, pour le nouvel an berbère. Hein.
Tout à fait, c'est notre année 2974 et nous en sommes plutôt contents de cette année. On espère que les artistes répondront à la demande de nos éditeurs. D'ailleurs, on espère que Oda Haddon ainsi que Shakir seront au rendez-vous pour ça.
Eh bien écoutez, nous en parlerons. Aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup, hein, la langue berbère, c'est la langue kabyle, c'est la langue amazir, c'est la langue tamazir, c'est la langue tout ça, hein, c'est tout ce qui englobe le Maghreb, et même au-delà du Maghreb, c'est-à-dire l'Afrique tout court, évidemment, la corne de l'Afrique y compris. Quel est l'enjeu? Est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui politique quand on parle de la langue berbère, la langue amazir, mon cher Brahim Aitatman?
Bah, vous l'avez dit vous-même il y a deux minutes, vous parliez de l'Europe et de cette demande qui est faite. En fait, aujourd'hui, si on veut réellement aider l'Europe à réguler son problème d'immigration, c'est déjà de reconnaître la culture qui nous unit tous, autant qu'on est, ainsi que nos traditions. Et c'est par la culture qu'on va réellement savoir partager et échanger entre nous. La culture aujourd'hui à Mazir, vous l'avez dit, c'est pas que l'Afrique du Nord. Hein. Ça va du Burkina Faso jusqu'à l'Égypte.
Vous avez raison de le rappeler, oui.
C'est tout ça, hein. C'est tout ce bassin-là qui nous unit tous ensemble. Et aujourd'hui, la population amazigh, c'est pas la population, c'est une multitude de populations. Hein. On a toujours été une peuplade nomade qui a toujours été épris de liberté. Et cette liberté, aujourd'hui, on la revendique haut et fort à tous les niveaux de notre culture.
Brahima Tatman, justement, est-ce que finalement, j'ose vous poser la question, est-ce que la langue berbère, la langue amazigh n'est pas un enjeu politique aujourd'hui ?
Alors, ça peut être un enjeu politique, mais ce n'est pas réellement un enjeu politique. C'est un enjeu politique au sens noble du terme. C'est un enjeu politique dans le sens où ça peut unir et ça peut amener justement un échange constructif entre les différentes peuplades qui composent nos différents pays. Comme je vous l'ai dit, hein, quand vous allez au Burkina Faso et quand vous allez à l'Égypte, on peut dire qu'il n'y a rien de commun entre ces pays. Pour autant, la langue amazigh unit ces pays. Et ça, c'est un enjeu politique.
C'est un enjeu, il devient un enjeu politique. Alors, peut-être je vous pose la question différemment, Brahima Tatman. On a vu, hein, d'ailleurs, depuis quelques années, cette revendication identitaire. Alors aujourd'hui, tout simplement, est-ce que ce n'est pas un enjeu nouveau de cette revendication identitaire ?
Il n'y a aucune revendication identitaire. C'est une culture. Et la culture ne se revendique pas, elle n'est pas politique. La culture, c'est quelque chose qui unit les peuples. Elle n'est pas là pour les diviser. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de notre action au sein du collectif que nous avons composé. C'est justement pour bien montrer qu'aujourd'hui, notre enjeu à nous n'est certainement pas d'en faire un enjeu politique au sens rébarbatif du terme, mais bien au sens noble du terme. C'est-à-dire permettre à des populations qui ne se parlent pas, qui ont du mal à se comprendre, justement d'échanger sur des traditions. Aujourd'hui, quand un peuple veut avancer, quand un pays veut avancer, il faut déjà qu'il sache d'où il vient.
Mais tout de même, Brahima Tatman, est-ce qu'il y a une revendication berbère ? Franchement.
À notre niveau, non. Dans le collectif que nous avons composé, nous ne revendiquons aucune identité berbère en tant que telle. Ce qu'on revendique, c'est le fait de partager des milliers, vous l'avez dit vous-même, c'est 2900 ans d'histoire que nous avons derrière nous.
Oui, c'est vrai.
Cette histoire-là, il faut la partager, il faut la connaître. Quand un peuple veut savoir où il va, il faut déjà qu'il sache d'où il vient. S'il ne sait pas d'où il vient, il ne peut pas aller nulle part, il ne peut pas construire son avenir.
Donc finalement, vous avez un peu répondu à la question. La question de l'identité linguistique, hein, et culturelle, vous l'avez dit, c'est le mot que vous avez lâché à plusieurs reprises, culturelle des Berbères. Aujourd'hui, elle s'inscrit dans une dynamique à la fois de reconnaissance, mais aussi, est-ce qu'elle est amenée à se réformer, justement ?
Alors, tout dépend de ce que vous appelez la réforme, parce que la réforme, ça suppose qu'il y ait quelque chose à revoir. La culture, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une construction, c'est un amoncellement d'histoires qui s'empilent les uns sur les autres. Donc, si c'est ça la réforme, oui. Aujourd'hui, nous allons nous enrichir de d'autres cultures. Et donc, on va apprendre de d'autres cultures. Et donc, oui, effectivement, ça peut s'appeler une réforme.
Alors, justement, Brahima Tatman, le nouvel en berbère, 2974... aujourd'hui, c'est important de continuer à évidemment célébrer le nouvel an berbère. Vous, par exemple, il s'inscrit le samedi 13 janvier prochain.
Oui. Et quelle est votre question ?
Ma question, c'était, c'est important de célébrer le nouvel an berbère ?
Alors, la célébration en elle-même est importante parce que c'est le début d'une année. Et comme tout début d'année, c'est le moment de prendre des résolutions. Aujourd'hui, le collectif qu'on compose a pour mission d'unifier un peu la population amazigh marocaine, Mais au-delà de la population amazigh marocaine, c'est toute la population amazigh. C'est aussi de faire un pont entre notre histoire de notre pays d'origine, qui est le Maroc, et la France où nous vivons aujourd'hui. C'est aussi la construction d'un pont entre les différentes peuplades amazigh, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie, que ce soit la Libye. Toutes ces composantes de la langue amazigh sont les bienvenues au sein du collectif pour justement refaire quelque chose de construit. Alors, et
Brahim Atatman, notre... samedi 13 janvier, c'est des défilés, c'est des tenues amazigh, c'est des salons d'exposition, c'est aussi une soirée. C'est tout ça, hein, le samedi 13 janvier. Alors, ça se passe où précisément? C'est dans quelle ville?
Alors, ça se passe à Poissy, au Fort Marmont de Peugeot, et c'est à partir de 19h, mais à partir de 13h, effectivement, vous avez raison de l'évoquer. Ce qu'on veut partager avec ce salon-là, c'est toute la culture amazigh. C'est montrer qu'au-delà de la soirée elle-même, où il y aura des artistes comme le groupe Oudaden, Abdelaziz Aouzar, Leila Shakir, le groupe Tizouit et Aïdor, Raïs Tijani, Neyma Zeyani, l'humoriste Rachid Aslel, c'est aussi montrer que la culture amazigh, avec son habillement, avec ses recettes de cuisine, avec toute cette richesse qui est là depuis des millénaires. Et c'est ça qu'on voudrait partager, nous, le 13 janvier. C'est au-delà de célébrer un événement à un instant T, c'est réellement de faire partager ce que nous vivons au quotidien.
Alors, l'événement à ne pas manquer, Brahim Atatman, dont vous êtes évidemment le porte-parole de cette soirée, de cet événement exceptionnel. Samedi 13 janvier, à ne pas manquer, nouvel an amazigh, donc samedi 13 janvier à partir de 13h avec des exposants, une soirée artistique, il l'a dit, avec de nombreux artistes, mais également aussi un défilé tenu amazigh. Merci infiniment, mon cher Brahim Atatman. Et je vous souhaite évidemment un bel événement pour le samedi 13 janvier. À Poissy, ça se passe, hein, au 45 rue Jean-Pierre Timbaud, au Forum Armand Peugeot. Merci infiniment, Brahim Atatman, et bonne année encore. Merci à vous. Tout de suite, le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Et bonne année à Pierre-Henri. Bonjour, le patron de France Fraternité. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment
bonsoir,
ça va bien
l'ensemble des auditrices et des auditeurs.
Comment démarrer bonsoir, cette année alors? Ça va?
Eh bien, ça va. Si j'ai un conseil à donner aux auditeurs et aux auditrices, c'est finalement de relire un poème de Baudelaire. Il dit « Enivrez-vous ».
Ah oui.
« Enivrez-vous ». Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules
c'est
et
beau,
vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans cesse. Oui, mais de quoi? De vin, de poésie, de vertu ou d'amour, à votre guise.
C'est beau, c'est vrai. Baudelaire, c'est quand même une belle signature. Hein.
Ah ben, oui.
Ça fait partie des classiques. Karim Alouache, bonsoir, financier, mais également aussi... acteur politique, hein. Comment ça va?
Bonne année. Bonne année, bonne santé à toutes les auditrices et les auditeurs. Alors moi, je vais.
Vous avez un coup de gueule, vous.
Je vais dire, enivrez-vous. Moi, je vais dire, enfibrez-vous.
Enfibrez-vous. Alors pourquoi? Parce qu'il vous est arrivé une mésaventure.
En fait, j'ai découvert quelque chose parce que j'en suis victime. Ah, ça fait 8 jours.
Faites-nous part de votre coup de gueule. Allez-y.
Ça fait 8 jours que j'ai pas d'internet et j'ai appelé mon opérateur.
C'est pas normal.
J'ai appelé mon opérateur qui me dit ok. Et puis oui, alors, rien. Et ce qui se passe, il y a un vrai scandale dans ce pays, c'est le marché de la fibre. C'est les infrastructures qui ont été partagées entre les quatre gros opérateurs, qu'on fait appel à de la sous-traitance locaux, c'est-à-dire de la sous-traitance sous-traitance, un travail
mais tu découvres
sale,
la lune.
Très mal fait. Alors ça dépend de où vous vivez, hein. Je pense qu'en Seine-Saint-Denis, c'est encore plus mal loti qu'ailleurs.
Mais
parce
non,
que
c'est
les,
partout pareil.
Les opérateurs en ont rien à faire. Et puis je me rends compte d'une chose, on est 5 à la maison, pas d'internet, on peut pas télétravailler. Les enfants peuvent pas réviser leurs examens.
On peut rien faire.
On peut pas faire ses devoirs, on peut pas faire ses démarches administratives de fin d'année. En fait, on est bloqué, impuissant, et vous êtes face à des call centers qui sont tous à l'étranger, où vous avez des pauvres opérateurs, quand vous arrivez à les joindre, qui font ce qu'ils peuvent, et on vous dit de patienter. Donc ça fait 8 jours aujourd'hui, donc je compte les jours. Et là, j'ai interpellé par mail la députée de ma circonscription, Madame Obono, pour lui dire, il faut porter maintenant le débat à l'Assemblée nationale, c'est pas possible. C'est pas normal qu'on
elle
ait une
quoi
misère. Bah, elle va me répondre. Hein, le mail partira ce soir. C'est pas normal. J'ai interpellé
avec
son. Non, mais avec mon téléphone portable. Alors, vous savez ce que vous disent les opérateurs ? Bah, faites un partage de connexion. Mais c'est pas possible. Vous mettez une télé sur un téléphone, c'est mort. Vous pouvez pas. Donc, en fait, vous ne pouvez pas travailler. Et vous vous rendez compte que vous êtes démunis.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Alors que ce qui se passe, je vais vous dire très clairement, vous êtes raccordé, et bien votre U est raccordé à ce qu'on appelle un central ou un nœud de raccordement. Et les sous-traitants, parce qu'il n'y a que des sous-traitants, lorsqu'ils interviennent sur ces centraux-là, qui sont un bazar, mais sans nom, hein, c'est impossible, et bien qu'est-ce qu'ils font pour trouver une fiche ? Ben ils débranchent qui ils veulent, ils s'en foutent. Et ils branchent quelqu'un d'autre. Et vous, ensuite, eh ben, vous êtes bon pour un mois, deux mois, trois mois sans Internet.
Ça vous a énervé, cette histoire.
Ah, mais c'est pas que ça m'énerve, c'est qu'en fait.
Vrai, ça l'a énervé, hein.
Oui, c'est une misère. Hein. Je lui conseille d'aller regarder les coffres dans lesquels il y a.
Mais c'est une honte.
Tous les raccordements, ils sont à l'air libre. Aux portes de Paris, n'importe qui peut passer à côté.
Ce qui est grave,
affolant.
Ce qui est grave, c'est que je parle bien. J'ai le sentiment même que c'est organisé par les opérateurs.
Oh non.
Et c'est à celui qui convainc.
Alors,
il y a deux choses. Je vais interpeller
aussi.
Non mais je vais interpeller aussi le maire de ma ville parce qu'il y a des maires qui l'ont fait, qui ont poursuivi en justice les gérants, ceux qui gèrent l'infrastructure et qui ont obtenu l'obligation de sécuriser les accès. Et le maire a mis en place, pas dans ma ville, mais je vais l'interpeller pour qu'on fasse la même chose, un passage obligatoire en mairie du sous-traitant pour aller toucher à l'armoire et sur surveillance. Parce que vous ne pouvez pas vous en sortir. Bon. La deuxième chose, il faut une loi. Parce que le numérique, je suis désolé, c'est pas une faveur, c'est un droit. Et il faut une loi
pour
faire payer les opérateurs en cas de défaillance du SAV.
On aura compris effectivement votre coup de gueule, hein. Effectivement, pour démarrer l'année 2000. Vous avez
c'est
un coup de gueule
du consommateur.
C'est ça, la minute du consommateur.
Bonjour, Adi.
Bonsoir, mon cher Farid. Comment ça va ?
Ça va bien. Bonne année à vous-même.
Député suppléant, mais élu aussi.
Merci. Et bonne année aussi à tous les auditrices et auditeurs. Et j'espère que cette année 2024 sera un peu mieux que 2023. Je n'y crois pas trop, mais il faut toujours espérer.
Farid Haït.
Par contre, je voulais dire une petite chose,
dites-moi.
Si tu me permets.
Bien sûr. Allez-y, j'ai permis à tous.
Merci, Adil. C'est juste pour faire un petit message pour à tous les auditeurs et les auditrices, pour un message, parce qu'il y a une personne qui s'appelle Marco Bali West, il s'appelle, c'est son nom de entre guillemets de scène, il s'appelle Asdine, qui demeure à Saint-Denis, qui est président d'une association anti-gaspillage, qui a œuvré pendant des mois et des années quand il y a eu le Covid et après le Covid pour donner des paniers alimentaires aux plus démunis, etc.
Il est décédé
il y a quelques jours de ça. On a fait un événement à la Légion d'honneur. Il y avait du monde. Et demain, c'est son enterrement. Je voulais quand même saluer tous ses amis et sa famille pour encore leur donner toutes mes condoléances pour ce moment qui va être pas facile demain, parce que c'était vraiment une figure à Saint-Denis et au-delà de Saint-Denis.
Et un artisan de la loi anti-gaspillage. Et
exactement.
Merci, messieurs. Tout de suite, la pause. Et on se retrouve tout de suite après 01 53 48 3000. Vous nous appelez. On va parler des vœux d'Emmanuel Macron, mais aussi des autres sujets. Le remaniement, mais pas que, mais Jordan Bardella. Là, et puis aussi le reste des sujets qui ont retenu notre attention. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec Pierre-Henri, mais également aussi Karim Alouache et Farid Haïd. C'est parti pour les vœux du président d'Emmanuel Macron. Nous allons revenir évidemment sur ses vœux 2024, une année de détermination, disait donc le président de la République, mais et de fierté française. Est-ce qu'il y a aussi ce retour à cette fierté française ? Vous savez, on entend beaucoup les origines françaises, la France, Pierre-Henri. Les vœux d'Emmanuel Macron, finalement, c'était quoi ?
Il
a beaucoup insisté sur cette fierté.
Oui, sur le mot réarmement.
C'est ça. Et réarmement aussi.
Voilà.
C'est inquiétant, par contre.
En réalité, le mot a été employé une dizaine de fois dans son allocution. Alors, il faut se réarmer idéologiquement, il faut se réarmer économiquement,
c'est
industriellement, etc. Et il y avait un côté très martial chez Emmanuel Macron. En gros, je gouverne. Voilà, il y a quelqu'un qui est au gouvernail. J'ai fait des réformes qui sont assez impopulaires. Je les assume. Et puis je vais même vous annoncer quelque chose en 2024. Eh bien, je vais continuer. voilà, on en est là. Le vrai souci, c'est que la parole du politique et de tous les politiques est très dévaluée. Aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas sûr que les Françaises et les Français aient véritablement entendu ces vœux. Que ça fasse réagir.
Ah, vous pensez vraiment, oui ? Ça n'a pas été entendu.
Mais non, je pense que dans le microcosme, bon, c'est normal, il faut qu'on commente cela, mais les Français ont d'autres préoccupations, et franchement, le spectacle que les politiques ont donné sur cette année 2023, sur les 6 derniers mois, est tellement dramatique que la parole politique est tout à fait dévalorisée.
Karim Aloche, il y a beaucoup aussi de... Il y a trois termes aussi qui sont revenus régulièrement, c'est liberté, protéger, unir.
Ben d'abord, il a un discours guerrier, ça c'est le côté « je fais peur à tout le monde pour justifier ma position et le fait que je dois être le seul maître à bord ». C'est pour ça qu'il n'entre pas les termes guerriers. Ben oui, là il y a une guerre qui va perdre, c'est les Européennes, ça c'est clair. Et s'il veut... Alors, il lance une espèce de froideur et d'inquiétude, on va perdre l'Europe, ça va être la catastrophe mondiale. Si on la perd, ça sera à cause de lui, parce que l'Europe n'est pas un problème. C'est notre représentation dans l'Europe et dans l'Union européenne qui est un problème. Tant qu'on aura des députés et des représentants qui sont incapables de nous représenter, intéressés par autre chose, quand on voit aussi l'exemplarité des politiques et des élus, regardez toutes les affaires de procès, hein, tout le monde est dedans au niveau des emplois fictifs au niveau de l'Union européenne. Alors quand on veut taper sur un parti, ben, on se fait éclabousser. La dernière en date, moi j'ai qu'un exemple, la dernière en date, la ministre de la Santé, comment on peut nommer un ministre qui est dans une affaire de cadeaux 70 000 euros ou pas, enfin d'un gros montant. Bon. Mais quel exemple on donne à la France dans tout ça?
Bon. Farid Haït, oui, l'élu.
Deux, trois choses. D'abord, je crois qu'il faut qu'on fasse quand même, chacune et chacun, pour cette année 2024, de faire attention d'arrêter même les commentateurs, les journalistes, les gens qui sont parfois de bonne foi.
Bah, un journaliste, son métier, c'est de commenter.
Non, j'ai pas terminé. Adil, j'ai pas terminé.
Normalement.
Je parle. Les journalistes, les commentateurs, les spécialistes, parce que maintenant, de plus en plus dans les médias, il y a des spécialistes, des experts, etc., etc. Pour taper matin, midi, soir sur le politique. Et je vous le dis tout de suite, c'est contre-productif. Parce que franchement, c'est pas la réalité. Alors, on peut taper, bien évidemment, sur des choix qui ont été faits,
Farid,
des choix qui ont été réalisés, etc. Mais moi, je vous le dis, le trois quarts des députés françaises et français font leur métier. Allez voir Adil, justement, vous tournez un peu partout en France. Allez voir le maire de 5, qui gère une ville de 500 habitants, de 1000 habitants. Vous savez comment il travaille. Matin, soir, il fait son boulot, il est agriculteur et en même temps, il s'occupe de la gestion commune. C'est pour ça que je voulais juste en tirer. Le chapeau, non, mais je voulais
aller voir
mais
le maire d'une commune de 1 million d'habitants.
Mais j'ai le droit, Adil, j'ai le droit.
Mais c'est pas ça, mais c'est son choix.
Exactement.
Mais j'ai le droit.
Qu'est-ce qu'on est dans ce truc? Adil, j'ai le droit. Adil, j'ai le droit.
Farid,
de 2024, mettre un bon point pour les femmes et les hommes qui s'impliquent dans la vie. Non, mais Adil, j'ai pas terminé. Les femmes et les hommes qui s'impliquent dans la vie commune
mais
de tout le monde.
Choix,
deuxièmement, par rapport à ce qu'a dit Macron. Par rapport à ce qu'a dit Macron, moi je l'ai trouvé terne. D'abord, c'était vous avez vu, on a fait une petite séquence de une demi-heure. Mais pourquoi il a fait ça?
13 minutes.
Même pas,
13 minutes.
Voilà.
13 minutes.
Voilà. Ben, 13 minutes.
C'est long, 13
pourquoi,
minutes. Hein.
Non, pourquoi il a fait c'est ça long. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était il y a quelques jours antérieurs, il était à France 5. Et il est resté 2 heures. Et pendant les 2 heures, il a déjà fait le bilan. Il a dit ce qui allait, ce qui allait pas. Il a dit oui, j'y vais, je suis allé là,
on
va aller là, etc., etc. Oui, non, mais c'était pas que le bilan. Pendant ces deux heures sans journalistes qui ont titillé de temps en temps, etc., il a pu dérouler quand même pas mal de choses, etc. C'est pour ça que moi je l'ai trouvé terne. Et on voit bien que c'était tellement terne, c'est que honnêtement, même dans les médias, on en a pas entendu.
Alors, Farid, attendez, ça suscite des réactions. Il y a Karim Aloche dans l'ordre et Pierre-Henri.
Alors, moi je trouve qu'il y a une chose. Si on n'accepte pas quand on fait de la politique, vous êtes critiqué, on ne fait pas de politique.
Ouais.
On fait autre chose.
J'ai jamais dit
aucun maire n'est obligé d'être maire. Et allez voir les maires de communes de 1,5 million d'habitants
qui sont
présents à un quart du conseil municipal et qui se barrent après.
Mais on a le droit de dire aussi qu'ils font du bon boulot. On a le droit de dire aussi.
Continuer.
On a le droit de dire les deux.
Moi, je trouve qu'on les critique pas assez. Je trouve qu'on les challenge pas assez. Et il faut leur demander des comptes parce que, punaise, c'est avec l'agent public tout ça.
Oui, challenger, ça veut dire, en réalité, essayer de porter le débat à un bon niveau. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Parce que si c'est pour cogner sur les élus, comme ça se passe de plus en plus, qu'ils se font cogner au coin de la rue,
et de plus en plus,
alors ça, c'est absolument inqualifiable. Ce n'est pas... Donc, on a besoin des politiques, et on a besoin d'un débat équilibré. Et je crois que tout le monde doit y participer. D'abord, l'outil médiatique qui tire très souvent je pense à certaines chaînes et qui font un succès important aujourd'hui, mais qui tire le débat vers le bas. Donc le politique, oui, on en a besoin, mais on a besoin aussi d'un débat éclairé. Moi, je suis stupéfait de voir que, par exemple, sur un sujet que j'ai la prétention de maîtriser, comme par exemple le cas de l'immigration, nous avons eu droit pendant un an et demi à une série de fake news en permanence et distribuées, données par le politique. Donc à partir de ce moment-là, quand le politique ne se respecte pas, comment voulez-vous que les Français, les Françaises participent à un débat apaisé? C'est pas possible. Donc, deux choses. Oui, la critique du politique, mais la critique du politique, quand on dit critique, ça veut dire hausser niveau.
Sur le contenu. Justement, Roger, vous permettez une belle transition. Il faut que j'avance parce qu'il est 19h29 précisément.
Mais on est tellement bien.
Justement, vous êtes tellement bien qu'il faut poursuivre le débat, dans le même sens.
Juste un mot, demander des comptes, oui. C'est pas critiquer, c'est un devoir.
Non, bien sûr. Alors, justement, messieurs, 01-53-48-3000, si on a le jingle, il est là, c'est parti.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
Le standard est ouvert, vous pouvez venir donner votre point de vue, et bien il est le grand bienvenu. 01-53-48-3000, Vera en remaniement. Vous savez qu'Elisabeth Borne, en ce moment, je crois qu'elle est en train de le vivre elle-même. Elle a bien compris qu'elle risque d'être évincée. Alors, est-ce qu'il y a des rumeurs? Ces folles rumeurs, évidemment, qui reviennent avec beaucoup d'insistance. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Est-ce que vous avez des infos? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, je vous pose la question, faut-il, évidemment, que le chef de l'État provoque un remaniement pour repartir, comme il le disait si bien dans ses vœux, vers de nouvelles perspectives, Pierre-Henri?
Il faut qu'il invente un cap pour 2024, parce que
c'est soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit le remaniement.
Et le remaniement durera le temps que ça durera, parce que les politiques s'usent très vite aux fonctions auxquelles ils sont, et donc Elisabeth Borne.
Et ça se voit physiquement.
Elisabeth Borne, elle l'a usé jusqu'à la corde, y compris sur la question de l'immigration, a priori Elisabeth Borne était plutôt centre-gauche sur cette question. Et la voilà qui assume, en dernière analyse, une loi qui, d'ailleurs, au passage, risque d'être toquée pour 50 de ses articles. Vous entendez bien, 50 de ses articles par le Conseil constitutionnel. Elisabeth Borne, elle est rincée. Donc, voilà, mais la question, c'est...
Vous la voyez rincée?
Je pense qu'elle est rincée, lessivée. Lessivée, rincée, ce que vous voulez. Mais le problème... Comment, avec le président de la République, qui est quand même un monarque absolu, comment peut-on exister pour un Premier ministre, pour un gouvernement, sur la fin d'un quinquennat qui s'avère extrêmement difficile?
Vous êtes en train de nous dire, en gros, que tout se décide au château. C'est ce que vous laissez entendre.
C'est une évidence, voilà. Et ça a été renforcé avec Emmanuel Macron. Je rappelle la promesse d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron deux fois.
Pas moi.
Oui, je sais. Mais En ce qui me concerne,
cela m'aurait surpris de la venant de la part d'un communiste.
Voilà, c'est la rupture. Aujourd'hui, c'est la rupture totale. Mais ce qui m'intéresse, c'est où va la France ? Comment fait-on ? Et puis, au passage, je pose aussi la question à mon ami de gauche, comment la gauche peut-elle penser exister dans le panorama qui est le sien ? Parce que, quand même, on n'a jamais vu la gauche aussi basse qu'aujourd'hui, 25%, 25%.
Vous le soutenez toujours, Emmanuel Macron ?
Ah non. Moi, j'ai rompu.
Alors, remaniement, faisons un tour de table et la gauche qui s'effondre. Alors, Farid Aïd, ensuite Karim Alouache.
Deux, trois choses. C'est vrai que moi, je partage ce que dit Pierre-Henri. Là, on voit bien qu'ils sont au bout du rouleau, quoi. On les voit bien au bout du rouleau. Et on voit même des ministres au-delà de Elisabeth Borne au-delà de Elisabeth
Borne, il parle de vous là, hein.
Ouais, j'ai bien entendu. au-delà de Elisabeth Borne, c'est tout son gouvernement qui est au bout du rouleau, et on le voit bien. On est sur l'année olympique. Oui. 2024.
D'ailleurs, on l'avait sous ces drapeaux-là, d'ailleurs. Voilà. Pendant ses vœux, vous savez, tous ces drapeaux.
Oui. Mais vous entendez, vous, la ministre des Sports ? C'est un événement quand même mondial, même si il faut relativiser.
Bah, moi,
je l'entends
jamais.
Je suis pas totalement d'accord, et que c'est sur un certain nombre de choses. Mais il n'y a rien. Regardez, tout le monde ne saura même pas son nom.
Si, je le connais, son nom.
Ben voilà.
Il faut un remaniement. Mais en même temps qu'il faut un remaniement, il faut un remaniement aussi sur le fond politique. Parce que s'il n'y a pas un remaniement sur le fond politique, si c'est pour toujours nous dire la même chose, on nous disait deux choses. Oui, quand on a parlé du projet de l'immigration, on nous disait, deux secondes, Adil, parce que je suis toujours obligé d'être pressé, malheureusement.
Mais pas du tout, au contraire, vous avez eu le.
Non, mais non,
qu'il n'a pas la parole.
Moi, j'attends toujours.
Moi, je trouve qu'il a beaucoup la parole.
Pas du tout.
Il fait son politique, là.
Sur le projet immigration, Emmanuel Macron a dit, moi, je vais sur le projet immigration. Pourquoi ? Parce qu'il y a 70%, 75% français qui sont d'accord. Mais il y avait aussi 70, 75% de français qui étaient d'accord, qui étaient contre la réforme des retraites. Pourtant, il a fait
80%
abstention.
Que vous mentionnez, ouais, c'est faux.
Pas.
C'est faux. Ben oui. C'est faux. Le dernier sondage qui a été publié sur la question de l'immigration, c'est 48% des Français qui se déclarent pour, dont
tout à fait.
Seulement 36% savent ce qu'il y a dans le projet.
Dans le projet immigration. Exact.
Allez, on marque la pause et je vous donne la parole juste après la pause à Karim Alouache et la ministre des Sports, c'est Amélie Oudéa-Castéra. Voilà, je cherchais, c'était
ça.
Amélie.
Merci Adine.
Amélie.
Amélie.
Où est passée Amélie ?
Voilà, je connaissais Amélie Mauresmo, mais.
On a plus parlé de sécurité pour les JO que de sport.
A tout de suite, n'oubliez pas, restez avec nous, 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h37-38 précisément, si vous voulez de nous retrouver. 01-53-48-3000, vous pouvez intervenir. Avec Pierre-Henri, avec Karim Alouache et enfin avec Farid Aïd. Et le débat est passionnant, effectivement, en ce début d'année. Karim Alouache, vous devez vous donner la parole concernant la rumeur du remaniement. Et puis, il faut qu'on parle, vous savez quoi, de cette Europe qui demande à l'Afrique, tout simplement.
Où est la ministre des Sports ?
Ouais. Allez-y, Karim Alouache. Oui.
Non, mais il y a une chose qui est claire. Remaniement, c'est pas dissolution, c'est juste on joue la montre pour essayer de tenir, parce qu'aujourd'hui on le sent bien. Il y a qu'un seul maître à bord, c'est le président. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Parfois même, on a l'impression qu'il n'est pas au courant des interventions de ses ministres et ils sont obligés de les recadrer à chaque fois. Et puis en face, il reste ce qu'il y a, c'est-à-dire le peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parti politique capable aujourd'hui, à part peut-être. Comme le Rassemblement National, capable de tirailler. La gauche, elle est par terre.
Elle est là.
D'elle-même, elle n'est plus là. Je vis en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis.
Ouais, aussi,
et aujourd'hui, les maires de couleur qui sont arrivés, ils sont arrivés parce qu'ils ont dit fuck à leur parti politique. Les deux sénateurs aujourd'hui, le sénateur, on peut parler d'Acli. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit au PS, allez-vous faire voir.
Oui, mais il est dans quel parti ? Il est dans le parti écologiste. Aujourd'hui, les sénateurs.
Et après, les dissidents, on les rachète parce qu'on a besoin d'élus. Et je crois que la gauche commencera à faire un premier pas vers l'avant lorsqu'elle sera capable de se remettre en question. Moi, j'ai pas de problème, je suis sans étiquette, j'ai rien du tout parce que.
Mais apparemment, non, peut-être plutôt Rassemblement National. Parce que vous parlez beaucoup de Rassemblement National et tout.
Ça, c'est toi, et assume-le, ça sera très bien. Et je suis convaincu que le jour où le Rassemblement National gagnera une élection. On en verra plein là qui font les coqs en disant bah je vais les rejoindre, tu sais, c'est toujours mieux de combattre de l'intérieur que de l'extérieur. Bon. Aujourd'hui, on a des clients politiques, et tant qu'on sera avec du clientélisme politique et des clients politiques et des gens qui sont là que pour l'ascenseur social politique, on n'avancera pas d'un chouïa, bien au contraire.
Messieurs, je voudrais parler, on continuera d'en parler, ben, parce que la gauche, effectivement, vous avez raison, c'est vrai.
Mais il faut travailler sur un projet, bien sûr. Non, mais il a raison, Pierre-Henri, quand il dit que où est la gauche. Ouais. Mais la gauche, elle est là, sauf aujourd'hui, elle est là, sauf elle est, comme elle est divisée, elle est moins audible, est moins visible. Mais alors, si elle est en capacité de travailler sur un projet commun, un projet pour la France, un projet pour les Françaises et les Français, je pense qu'elle peut redevenir audible et visible. Et alors, Laurent, j'en suis persuadé.
Troisième sujet, évidemment, qui a toute son importance. On est en plein dedans. Justement, vous parliez du Conseil constitutionnel qui risque de retoquer cette loi concernant l'immigration. L'Europe qui demande aux capitales d'Afrique du Nord d'être le gardien des frontières tout en volant des centaines de milliers de travailleurs qualifiés. Ça veut dire quoi, ça, vous, qui êtes spécialiste, Pierre-Henri?
Ça veut dire que l'Europe est devant un défi migratoire en permanence dans l'ensemble des pays de l'Union européenne.
Non, mais est-ce que c'est à l'Europe de le demander à l'Afrique? C'est ça la question.
Mais
dans ce sens.
Ils peuvent toujours le demander. Ça fait des années qu'ils le demandent. Et que ça n'aboutit pas. Parce que quand on demande.
Les termes sont forts. D'être le gardien.
Oui,
le gardien des frontières.
Le gardien. Donc ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, le projet de l'Europe avec le Maghreb et, par exemple, avec la Tunisie, c'est de demander à la Tunisie de rejeter tous les subsahariens vers le désert, les empêcher de rentrer, et puis comme ça, l'Europe sera bien gardée. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette affaire.
C'est quoi?
Ben, figurez-vous que la plupart des gens qui arrivent en provenance de Tunisie sur les côtes italiennes sont d'abord tunisiens, parce que la jeunesse tunisienne ne se voit pas beaucoup d'avenir dans le pays tel que le dessine Saïed. Donc, l'Europe a besoin d'un partenariat, mais pas simplement si elle imagine que les pays du Maghreb vont constituer, moyennant finances, une espèce de barrière pour empêcher les subsahariens de remonter, mais c'est absurde, c'est un projet totalement absurde. Donc, on a besoin de coopération, avec les pays du Sahel. Mais je vais vous donner un exemple, Adil. Dans les pays du Sahel, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Tchad, le Niger, etc., savez-vous que 60% de la population a moins de 18 ans, et que c'est l'endroit au monde où il y a le taux de fécondité le plus important et le taux de pauvreté le plus important. Voilà, vous avez là tous les ingrédients d'une bombe économique, sociale, etc. Donc, demander aux pays du Maghreb de constituer une espèce de barrière pour empêcher les subsahariens de remonter, mais c'est absurde quand dans le même temps vous avez des politiciens qui, en France, demandent par exemple d'aller remettre en cause l'accord de 1968 avec l'Algérie. Mais vraiment, nous marchons sur la tête, la droite, sur cette question. Nous avons besoin à la fois, oui, moi je le dis, de contrôle, de maîtrise, mais on a aussi besoin d'une main-d'œuvre. Regardez Mélanie, puis je termine là-dessus. Qui promettait la remigration, de remettre tout le monde à la rue.
Elle travaille avec l'Europe.
Eh bien, elle vient d'annoncer 435 000 personnes d'ici 2025 en termes de main-d'œuvre étrangère. Donc, il faut arrêter avec ces
deux, trois choses. Justement, la dernière fois.
Adil, deux, trois choses.
Mélanie Georgia, la première ministre.
Deux, trois choses, moi, sur l'Europe. Et on voit bien, Pierre-Henri, par rapport à ce que tu as dit. Et par rapport. Là, on nous a bassinés pendant un an sur le projet immigration. J'ai peur qu'on fasse pareil sur l'Europe. Que là, on va avoir un débat sur l'Europe. Moi, je pense que le débat, il doit être sur quelle Europe on veut, quelle Europe sociale qu'on veut, quelle Europe économique qu'on veut, etc., etc. Et j'ai peur que encore, on va encore avoir 6 mois où on va parler que des frontières, qu'on va parler que d'immigration,
on va et parler qu'on va de parler sécurité
de ça, et de sécurité, exactement. Et c'est, je pense que ça suffit. Et il faut qu'on parle aussi d'autre chose. Il faut qu'on parle comment on
la
peut vivre ensemble.
La sécurité,
faut
en parler, non.
Oui,
mais on ne peut pas que ça.
Mais on peut parler aussi d'autre chose. Oui. On peut parler en même temps de
sécurité internationale,
aussi,
d'alliance.
Voilà, d'alliance. Comment on peut travailler avec les pays, comme tu disais, les pays du Sahel, pour essayer de travailler du gagnant-gagnant et faire en sorte
qu'est-ce qu'on dit sur l'Ukraine.
Le seul point, sur lequel l'Europe a réussi, c'est l'euro.
Oui.
C'est le seul point. Avec une devise forte, une monnaie forte aujourd'hui, qui nous rend bien des services. La première chose, quand on veut parler d'Europe et d'ouverture, et puis l'espace Schengen, la libre circulation, mais qui pose des gros problèmes. On parlait de l'entrée dans l'Ukraine en Europe, mais il y a une réalité. Dès l'instant que vous êtes dans l'Union européenne, libre circulation, libre travail, libre compétition, quand le salaire minimum là-bas est de 150 euros, vous faites comment, vous? On va se retrouver avec la même délocalisation comme on l'a fait avec la Pologne,
hein,
où toutes les entreprises, tous les grands centres d'activité et de services sont en Pologne aujourd'hui, parce que le salaire moyen là-bas, il est extrêmement plus bas, au détriment, et on tue nos entreprises. Là, on parlait de réinternaliser l'industrie française, de réindustrialiser le pays. Vous faites rentrer l'Ukraine, vous tuez tous ces pays-là. Je vous le dis clairement, vous les tuez.
Mais vous savez c'est bien qu'on est sur un autre temps. Et là, qu'on parle de sécurité internationale, on parle d'alliance, et quand on parle de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, d'abord, c'est pas demain, et qu'on parle d'autre chose. On parle de la guerre Ukraine-Russie.
Deuxième chose, l'Union européenne qui demande, vous avez raison, la première immigration, c'est pas subsaharienne. Déjà, il faut qu'ils arrivent jusqu'à la Méditerranée. C'est d'abord gérer l'immigration maghrébine. Mais de l'autre côté, quand vous avez un pays où on ferme les yeux sur l'embauche, le travail au noir, des clandestins, etc., parce que demain, vous prenez tous les immigrés, quand je parle d'immigrés, je parle de ceux qui ont fait le voyage, hein. Pas les gens, les doubles nationaux, les trucs comme ça. Vous les sortez du pays, mais le pays fonctionne plus.
Ouais.
Pays ne fonctionne plus.
Exactement. Oui.
Voilà.
Alors, avant de retrouver le quoi de neuf, comme tout chaque mardi d'ailleurs, je vous propose simplement de faire un tour de table concernant Jordan Bardella. Vous savez, c'est cette, comme chaque année, hein, le journal du dimanche publie, hein, les personnalités préférées des Français, et le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui arrive loin devant Emmanuel Macron et tous les autres d'ailleurs personnalités politiques. Est-ce qu'on a une explication, Pierre-Henri, à tour de table?
Une explication. D'abord, le Rassemblement National est quand même assez haut dans les intentions de vote, premier élément. Deuxième élément, c'est un jeune type qui est super entraîné.
Brillant, à 28 ans quand même.
Alors, brillant, ça dépend ce que l'on entend par brillant.
À 28 ans, jeune, comme ça, à ce niveau-là.
Très bien. Comment il fait partie de la famille? Il a été adoubé par le clan Le Pen. Ben oui. On est dans de l'endogamie. Très bien. Je ne sais pas s'il est brillant. En tout cas, il est là. Il est hyper médiatisé. Il répond au canon de la beauté médiatique aujourd'hui. Mais vous savez, moi, j'oublie pas quelque chose. Les médias, en règle générale, elles lèchent, ensuite elles lynchent et elles lâchent. Oui. Donc, on verra bien le moment venu.
Les trois ailes.
Oui, c'est vrai. Là, c'est pas mal. Et pourtant, Jordan Bardella est plus sévère. Son discours est beaucoup plus dur. Je dirais même les proches de Zemmour, son discours. Karim Alouache.
Non, mais on va pas se mentir. Il fait le job. Aujourd'hui, ils ont une organisation et un parti qui a une base militante énorme. Et eux, ils votent, contrairement aux autres. Et puis, face à l'offre politique, il n'y a rien en face. Il a un boulevard et il est en train de ça rentre dans toute la politique et la campagne de dédiabolisation du Front National.
Exactement. Farid Aïd, avant de retrouver le code 9.
Ouais, non, moi j'ai pas grand chose à dire, juste pour dire que c'est un temps, comme le disait tout à l'heure Pierre-Henri, c'est un temps. On l'a vu avant les élections présidentielles, on montait, les médias avaient monté Éric Zemmour, il était au deuxième tour, etc., etc. Et il a fait pchit, même si il a encore des électeurs. Moi, je pense que il fera pas, malheureusement, le Front National ne fera pas pchit. Mais en tout cas, il faut les combattre sur les idées, sur le
projet. Pierre-Henri, tout à l'heure, disait plutôt le contraire. Il disait que le Rassemblement National, il est prêt, il est présent, quoi. Il est là.
Oui, ah ben,
évidemment. Il continue de grandir politiquement.
Et à partir du moment où vous remportez des batailles culturelles et que vous avez des outils qui sont des outils médiatiques chez Bolloré, écoutez, la chaîne que je ne regarde pas,
il y a des chaînes qui font le job.
Mais hélas,
c'est grave.
Ils sont bien payés. Oui, qui fait des scores d'audience extraordinaires.
Ils sont devant BFM TV maintenant.
Oui,
très régulièrement.
Oui, on parle de CNews, terrible. Parce que c'est fake news et compagnie.
Voilà.
Fake news et compagnie, je ne sais pas. En tout cas, à vérifier. Bon, voilà. 19h50, le point 9. Hein. La parole de Louis Bachou, c'est parti. Bonjour.
Les informés. Les informés. Le quoi de neuf.
Attends, faites la fête, pas la tête. Je ne suis pas croyant, mais j'aime toutes les fêtes religieuses, traditionnelle païenne. La fête avec joie, embrassade, cadeau, projet commun. La fraternité est sa seule règle. Alors pourquoi se perdre dans la frilosité lorsqu'il s'agit de célébrer, de communier ou de déclarer jour férié tous ces moments où les religions des Français font feu de tout bois ou feu d'artifice et repas familiaux rythme la joie de vivre et l'espérance. La loi de 1905 prône l'égalité de tous les citoyens devant la loi. La laïcité garantit le libre exercice des cultes et range au même rang Pentecôte, Kippour, Aïd ou Noël, Hanouka, Mouloud. En 2003, la commission Stasi préconisait déjà de chômer ces quelques fêtes. La communauté de destin s'en trouverait renforcée, et c'est cela aussi, faire nation. La France, qui est le pays des droits de l'homme, de la laïcité, de la fraternité, permet cette belle alchimie. Alors, sans plus tarder, faisons la fête ensemble.
Faisons la fête ensemble. La parole de Louis Bachou, le quoi de neuf, que vous retrouvez chaque mardi à 19h50, ici même, dans Les Informés. Je voudrais qu'on fasse un tour de table. Je vous entends depuis tout à l'heure, mais pardonnez-moi, Jordan Bardella, là, il s'agit des personnalités les préférées des Français. D'accord ? On ne parle pas des médias qui, comme vous disiez, les 3 L, lèche, lynche, et ensuite après lâcher, ou je ne sais pas quoi.
Ouais, ouais.
Oui, bon, mais il passe bien.
Lèche, lynche et lâche.
Ouais. Voilà. Adil, il passe bien, il est jeune, il passe à la télévision, et comme a dit Pierre-Henri, il a un beau costume, voilà, il fait le job, il connaît les techniques de communication et des médias, il en joue, etc. Et les Françaises et les Français, ils veulent entendre aussi un certain nombre de choses.
Bon.
Et ça fait que peut-être il y a aussi, voilà, il y a cette interaction qui fait que voilà, l'émetteur et le récepteur, quoi.
Oui, puis alors le classement en question, je voudrais bien voir comment il est fait.
Ça y est, tout de suite, vous remettez en cause.
Merci Pierre-Henri, je ne vais pas le dire.
Et la première personnalité, c'est laquelle? Goldman. Mais enfin,
il vit à Londres depuis 15 ans.
Mais c'est extraordinaire depuis 15 ans.
On mange le sel.
Non, mais attends.
Demande à ta cousine. Demande à ta frangine.
Ben oui. Personne ne connaît Jean-Jacques
Goldman. Demande à ta femme.
Si, non, les jeunes, non. Les jeunes, non. Les jeunes,
non. Non, mais c'est une plaisanterie. Ça fait 15 ans qu'il est là, installé.
En fait,
il faut voir comment sont posées les questions et il a raison Pierre-Henri. Ouais. Moi j'ai beaucoup de doutes sur le sondage ou comment c'est fait. Si tu dis qui vous préférez entre un tel, c'est bon. Je vous rappelle quand même que
la
personnalité préférée des Français, vous avez dit, c'est Goldman, qui est exilé fiscal à Londres depuis des années, alors qu'on avait un joueur de foot qui vivait au Real, qui payait ses impôts en France et que tout le monde détestait.
En fait, il revient d'Arabie Saoudite, lui.
Ouais. Merci à Pierre-Henri.
Je te vois la semaine prochaine.
Le président de France Fatalité. Merci Pierre-Henri. À très vite.
Salut.
Carré Malouache.
Salut à tous.
Local,
et baguette croissant toujours. Hein.
Ouais. Exactement.
Et n'oubliez pas, et librez-vous.
Merci à toutes les auditrices et auditeurs. Merci Adil.
De poésie. Merci
tout le monde. C'était Fodil.
D'amour. Ou de vertu.
Et une solution pour la fibre.
Jusqu'à 23h avec Kim demain matin. À demain à 19h. Avec autant de plaisir. Et surtout, bah vous le savez, hein, on ne lâche rien.
On lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.